La ville de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a organisé le 20 novembre 2024 les rencontres de l'éducation artistique et culturelle qui ont rassemblé plus de 300 professionnels, enseignants et intervenants culturels. L'occasion pour Cadécole de s'intéresser aux enjeux de l'éducation artistique et culturelle, donnant la parole aux professionnels impliqués. Dans cet épisode, nous sommes allés écouter les échanges entre des professeurs des écoles, des artistes, des membres des institutions culturelles et des agents de la communauté de communes de La Courneuve. La rencontre est organisée pour évaluer l'initiative de la municipalité de La Courneuve qui propose un catalogue complet, dit « clé en main », à destination des professeurs du premier degré pour faciliter et soutenir la réalisation des projets d'éducation artistique et culturelle sur son territoire. Nous entrons, micro à la main, dans une salle comble. Des dizaines de tables sont numérotées pour accueillir les 300 personnes attendues et rassemblées en groupes composés à l'avance. Il s'agit de faire discuter des personnes de métiers différents, venant de zones géographiques variées.
Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris que si on vous a réunis ici, c'est bien parce que la matière grise dont nous avons besoin pour mener cette évaluation, cette recherche-action, ce travail collectif sur ce qui fait la qualité de ce que nous faisons, c'est bien parce qu'on a besoin de vous qu'on est là aujourd'hui. Bon courage, on est parti.
Les participants sont invités à échanger autour de 10 affirmations sur les parcours d'éducation artistique et culturelle. Le projet EAC, c'est bien quand c'est prêt à l'emploi.
C'est-à-dire d'avoir à disposition un catalogue ou une liste d'actions. Mais sans qu'il y ait forcément d'interaction. En fait, quand on voit la suite des questions, on voit qu'au fur et à mesure où on descend, on est vraiment dans une dynamique de groupe, c'est-à-dire une dynamique collective. Donc la première attitude, ça serait de dire, de prendre la facilité, c'est en gros, la collectivité met à disposition un catalogue, ce qui peut être le cas par exemple pour La Courneuve, et de se dire, à l'intérieur du catalogue, je choisis une action qui m'intéresse pour mon groupe, pour ma classe, pour mon établissement, sans forcément aller chercher à travailler en fait sur les thématiques qui sont proposées. En gros, on est plutôt dans une vision consumériste. Donc voilà, donc c'est de dire est-ce que le projet EAC c'est bien quand c'est prêt à l'emploi.
En tout cas, par rapport à la ville de La Courneuve, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ils nous proposent des parcours prêts à l'emploi. Maintenant, c'est à nous enseignants de complètement s'y intégrer, de s'en saisir et d'utiliser. Maintenant, moi, en tant qu'enseignante, quand j'ai choisi des parcours, je ne l'ai pas choisi en me disant, voilà, je vais avoir un intervenant qui va venir deux fois par semaine dans ma classe, les enfants, ils vont faire leur quota de musique et basta. À chaque fois qu'on a choisi un parcours, on s'est complètement intégré au parcours et on a voulu partager et on a même fait des changements par rapport à...
Alors, il y a des parcours qui s'y prêtent plus que d'autres. Voilà. Il y en a certains où c'est vraiment verrouillé, les séances, et c'est l'intervenant qui mène. Et nous, on est là,
En soutien quand même.
En soutien. Ça nous empêche pas, nous, entre les séances, de travailler en classe et de revenir sur ce qui a été fait.
Le fait que ça soit proposé de cette façon-là, pour certains étudiants, notamment enseignants qui débutent, ou qui n'ont pas accès un peu hermétique à tout ce qui est culture,
C'est quand même une porte d'entrée,
effectivement. Pour la maternelle, c'est plus compliqué parce que les propositions sont moins riches. Il y a moins de parcours qu'il y a moins de prestataires. En fait, il y a moins de propositions. Et la mairie, elle galère un peu pour trouver des parcours, surtout pour les petites sections. Mais c'est vrai que pour les élémentaires, il y a plus de 200 parcours. C'est énorme.
Clairement, s'il n'y avait pas ça, est-ce qu'il y aurait des choses qui se passeraient ou sans ça, ça n'existerait pas?
Sur la question de l'après l'emploi, moi je serais dans l'idée de dire oui jusqu'à un certain niveau parce que c'est confortable. Mais qu'en réalité c'est pas ce qui fait le fondement, le pilier même de l'éducation artistique. C'est un confort, mais ça fait pas tout et dans la plupart des collectivités ça n'existe pas, donc ça prouve bien que on peut aussi s'en passer quelque part.
Ce qui compte en EAC, c'est que les enfants vivent des situations riches.
Oui, c'est l'expérience. Ça, je pense qu'on est tous d'accord qu'effectivement, au-delà de la partie éducative et pédagogique, c'est aussi l'expérience et l'être ensemble, quoi. Ça, c'est essentiel.
L'EAC, c'est nécessairement en co-intervention.
Déjà, c'est un intervenant et un enseignant. Mais alors, dans le cadre scolaire, parce que là, c'est, ça ne concerne pas forcément plus que le secteur éducatif hein, que scolaire. Hein.
De toute façon, à partir du moment où l'intervenant ne prend pas les élèves tout seul, parce que ce n'est pas comme ça que ça se fait, ouais, et qu'on est là, c'est de la co-intervention. Ouais. Parce qu'on est deux adultes, on est dans...
Moi, comment je la comprends, cette question, c'est nécessairement toi, tu peux, toi, faire un parcours culturel sans forcément avoir un intervenant.
Oui, oui. Tu peux mener des voilà, si tu veux, sans, c'est pas nécessaire, mais
il faut le mettre en,
mais c'est bien.
Bah, il faut mettre en vraiment des accords, quoi. Il faut mettre en 1 ou en 2.
L'EAC à l'école ou au centre de loisirs, c'est pas très différent.
Je pense qu'on peut pas, voilà, on peut pas mettre au même niveau des activités qui sont des activités plus de loisirs, de temps d'accompagnement sur un temps périscolaire et l'éducation artistique. Après, les deux peuvent se recouper. C'est là où c'est intéressant. Parce qu'il y a des actions EAC qui sont des actions qui interviennent en centre de loisirs.
L'important, c'est ce qui se fait en classe, entre les séances.
Tout est important.
Voilà, c'est ça.
Après, c'est est-ce que vous avez un temps, est-ce que vous avez vraiment le temps en classe, entre les séances, de travailler, en fait, éventuellement sur l'avancement du projet.
Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand on retourne en classe,
il y a une espèce d'échange qui continue.
Parce que si on se contente de, vous avez eu spectacle, vous avez rencontré les artistes, super, on rentre à l'école, on passe à autre chose, on n'en parle plus. C'est comme en orthographe, on dit qu'un enfant, pour pouvoir réécrire un mot correctement, il faut que dans la même semaine, il l'ait écrit 5 fois. Bah, c'est la même chose. Si on ne reparle pas de ça avec l'enfant régulièrement,
il faut le réinvestir.
Réinvestir dans d'autres, ça devient transversal après, parce que c'est vrai de travailler d'autres domaines.
Ce qui se fait entre les séances, c'est annexe. Ça aide, mais l'important, c'est pas ce qui se fait entre les séances. C'est vraiment les choses. Exactement, séances.
Et puis, on ne les connaît pas, nous, les élèves, quand on commence. Donc, suffit qu'on... Si on a envie de faire un projet, par exemple, je parle pour la photo, imaginons que je demande photographie un objet, quelque chose qui touche un peu plus à la personnalité de l'enfant. Peut-être que l'enseignant va réussir plus facilement à arriver à trouver ça. Et ça, dans les moments où il n'y a pas l'intervenant.
Communiquer avec les familles sur l'EAC, c'est essentiel.
Plus que communiquer, il faut leur faire faire. C'est que, encore une fois, nous, l'année dernière, on a fait le carreau du temple. On se déplaçait sur Paris. Donc, on a pu partager des vidéos, etc. avec eux. Mais ils ne pouvaient pas venir voir les séances et voir les progrès.
Après, on avait des parents accompagnateurs.
Ah, beaucoup, hein, quand même. On prenait les AESH. Hein.
C'est vrai.
Surtout qu'il y a beaucoup de parents aussi qui sont confrontés à la barrière de la langue.
Ouais.
Et du coup, faire... Ouais. Avec leurs enfants, c'est super. Et puis, ils arrivent en France et sont confrontés à des choses qu'ils n'ont jamais faites dans leur pays d'origine. En fait, plus que communiquer, il faudrait leur permettre de le vivre.
Mon expérience personnelle, ils étaient venus. Il y avait 3 parents qui avaient accompagné une première atelier. C'était à Paris pour une séance de labo et à la restitution. Toutes les familles sont venues. Ça, c'était génial. Oui. Parce que moi, je ne m'attendais même pas à ça, mais c'était complètement dingue. Ils ont voulu faire plein de photos avec moi, les familles, les machins, tout ça. Enfin, c'était vraiment...
J'ai quand même 3 familles qui ne sont pas venues, ça s'est passé à la Courneuve, et ils ne se sont pas déplacés pour voir leurs enfants au théâtre.
Oui, c'est...
Non, 3 familles qui ne sont pas venues. Donc il y en a 18 qui sont venues.
Moi, je trouve ça léger sur un samedi après-midi.
Ah.
Il faudrait vraiment des temps pour travailler davantage ensemble, enseignants et intervenants.
D'intervention, il y a 3 quarts d'heure proprement pédagogique et 1 quart d'heure qui est dédié au débriefing après chaque séance. On ne pourra pas, de notre côté, côté conservatoire, donner plus de temps à ça, en tout cas inclus dans l'emploi du temps des enseignants. Est-ce que pour vous, au niveau des écoles, vous êtes en manque de temps pour travailler ça ?
On a un temps suffisant, on a aussi un temps qui est un peu informel, où on discute, on fait des retours sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc le temps est suffisant.
Les enseignants, presque c'est sur du temps bénévole. Enfin, nous, on fait des temps de travail avec eux le midi, pendant leur pause déjeuner, ça peut être des échanges par mail le soir. Donc, du côté enseignant, pas du côté structure culturelle, mais du côté enseignant, moi j'ai l'impression que c'est du travail bénévole, quoi. Et même sur la question du temps de formation des enseignants, c'est très très compliqué de les retrouver sans élèves. C'est très compliqué.
Moi je pense que c'est essentiel de prendre du temps et davantage de temps. Pour moi, c'est pas du temps bénévole, je mets des guillemets, hein. On vient d'entendre Sarkozy qui parlait des 24 heures.
Oui.
L'idée, c'est que l'enseignant, c'est pas 24 heures, c'est plus que ça. Mais ça veut dire qu'il doit faire des choix peut-être dans ses préparations et ses échanges. Et du coup, ça pose la question de comment il intègre un projet comme ça dans son programme scolaire pour pas que ça lui prenne plus de temps, mais que ça remplace d'autres choses ou que ça serve d'autres choses. Donc, moi, je crois qu'en tous les cas, les temps partagés, enseignants, intervenants, etc., ils sont essentiels et il faut vraiment les mettre en œuvre.
La difficulté me semble être de faire conjuguer les temps entre ceux de l'éducation nationale et puis les nôtres. C'est pour ça que le temps de midi est souvent exploité, parce que on est sur place, parce qu'il n'y a pas besoin de revenir. Quand les enseignants du conservatoire sont en cours, ceux de l'éducation nationale s'en vont. Donc, c'est-à-dire qu'ils partent à 16h30-17h. Nous, c'est la journée qui commence en principe à 17h. Donc, en fait, c'est pour ça que le temps de midi est exploité.
Dans certains PEAC, on nous demande de faire des séances en classe avec les élèves. Je pense que ça demande des rencontres plus fréquentes avec les intervenants pour avoir un fil conducteur et préparer au mieux les séances.
Après, parce que on a toujours une réunion en début de parcours avec l'intervenant pour savoir ce qu'on doit faire, où on doit aller, etc.
Dans certains PEAC, il y a 10 séances, par exemple. Oui. Tu te retrouves au milieu de la 4e ou de la 5e séance. Tu sais pas trop où tu en es. Les élèves, ils accrochent pas trop. C'est bien, dans certains cas, de pouvoir se voir et recadrer les choses.
Après, moi, à chaque fois que j'ai eu des intervenants ou autres, dès qu'il y avait besoin d'ajuster ou de se voir pour parler d'un problème.
Parce que pour les intervenants, c'est hyper important le retour de l'enseignant. C'est primordial parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les enseignants connaissent évidemment bien mieux les élèves.
Dans certains cas, on va jusqu'au bout du projet et on se rend compte que le résultat final ne correspond pas à nos attentes parce qu'à un moment, il y a eu un couac.
Parce qu'on ne comprenait pas, tout simplement. On n'avait pas les mêmes... Les mots ne recouvraient pas les mêmes choses pour l'enseignant ou l'intervenant. Et l'intervenant part quelque part, alors que nous, on pensait qu'il allait aller ailleurs. Et...
Parfois, tu as l'impression que tu es dans la bonne direction. L'intervenant est dans la bonne direction. Et à la fin, vous vous rendez compte que vous aviez deux directions différentes. Lui, il s'attendait à quelque chose de plus grand. Et moi, je m'attendais à quelque chose de plus petit.
L'année dernière, sur les projets, on était tout le temps en lien avec les intervenants. Après, il y a un moment, on ne peut pas faire plus.
Moi, j'ai choisi mon PEAC cette année par rapport à ça, parce qu'il y en avait un qui demandait énormément de travail à côté. Je me suis dit, vu les projets que je mène cette année, je ne vais pas pouvoir... je ne vais pas être à 100%. C'est ça. Je me suis dit, je ne vais pas être à 100% dans ce PEAC. Donc, j'ai décidé d'en prendre un autre c'était un peu plus light.
Mais après, ce temps, est-ce qu'il est possible de l'organiser sur un temps scolaire, sur une concertation REP+, on libère les intervenants sur une demi-journée et on se voit pour faire le point sur les projets. C'est pas forcément un temps en plus.
Préparer ensemble le projet EAC, c'est savoir ce qu'on veut que les enfants y apprennent.
Projet, il y a déjà les objectifs, on sait déjà ce que l'enfant va apprendre. Donc, quand on se positionne sur un projet, déjà, on sait exactement où on va aller. Mais l'objectif, il est clair dès le début du projet, en fait.
On aimerait aussi qu'ils atteignent un objectif. Parfois, il est atteint, parfois, il ne l'est pas. Il y a d'autres choses aussi qui en ressortent. Donc, je ne suis pas tôt. C'est savoir ce qu'on veut. Oui, on sait ce qu'on veut pour eux, mais est-ce que c'est final ce que eux veulent? C'est pas. Est-ce qu'on retire? C'est pas forcément le.
Peut-être c'est théâtre, par exemple, l'intervenant va vouloir qu'ils apprennent à travailler ensemble. Moi, je vais peut-être vouloir qu'ils apprennent à mémoriser un texte. On va peut-être pas avoir les mêmes objectifs.
Est-ce qu'on veut absolument leur apprendre quelque chose? Ça veut dire que foncer montre. Ou alors, est-ce qu'on veut qu'ils soient acteurs du truc et tout? Peut-être qu'ils, au moins qu'ils fassent, eux, l'action.
Préparer ensemble les projets EAC, c'est savoir ce qu'on veut que les enfants y apprennent. Moi, oui. Hein. C'est la question des objectifs.
Moi aussi, mais le mot apprendre, il peut s'entendre de différentes manières. C'est-à-dire soit de manière très scolaire et c'est des connaissances et des choses comme ça. Et justement, le AC, c'est un espace d'ouverture et d'autres langages. Et que du coup, bien sûr, on a envie qu'il se passe des choses. Mais est-ce que c'est d'ordre de... c'est sûrement une forme d'apprentissage.
Les émotions, gérer ses émotions, c'est de l'ordre du ressenti, c'est l'ordre des... c'est pas une compétence pragmatique, mais ça s'apprend aussi.
Le AC, c'est une dynamique d'école. La place de la direction est importante.
ça ne doit pas être un projet isolé dans une classe avec un enseignant, et que ça doit rejaillir sur l'ensemble et avec le soutien de la direction pour que ça bénéficie à l'ensemble des élèves de l'école. Mais on parle d'un monde idéal et dans les faits, ce n'est pas exactement ce qui a été trouvé par l'ensemble de l'entreprise.
Effectivement, quand il y a des projets d'école, tu as raison au niveau de la dynamique, on le ressent tout de suite et c'est agréable en fait d'avoir cette dynamique de toutes les types. Ça, c'est incontestable. Mais ensuite, de dire que la place de la direction est importante, moi, je dirais plus que c'est la place de l'enseignant, parce que c'est elle, en fait, dans sa classe, ou lui, dans sa classe, qui va, en fait, être force de proposition, puisque c'est lui ou elle qui va, en fait, faire dans la classe et pratiquer. Alors que la direction, effectivement, elle va peut-être proposer, mais parfois, ensuite, ça s'arrête là. Et c'est finalement l'enseignant qui va...
C'est pas le rôle de la direction, justement, de dire, tu as un projet dans ta classe, mais ça pourrait intéresser un tel avec son projet, avec sa classe, et du coup, faire des ponts et donner du sens à l'établissement, faire un projet d'établissement à partir de l'initiative d'un enseignant ou d'une enseignante. Et du coup, on arrive à une dynamique d'école. Mais c'est le rôle du directeur, justement, ou de la directrice, d'avoir une vision d'ensemble et de se dire, on va faire des ponts entre vos projets pour, pendant la valorisation, ou journée porte ouverte, il y a quelque chose à faire. Et c'est le rôle, le positionnement, de la vision d'ensemble du directeur, de la directrice.
Ah, je me bouge.
C'est bon, on a vu cet angle. On peut envoyer alors.
Non.
Ce temps de travail Agora nous a permis de... qu'il y a cinq choix comme ça. Et qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Et il faut classer...
une seule feuille.
Les plus intéressants,
moins intéressants.
Échanger sur nos sujets de préoccupation. Éclaircir notre réflexion personnelle, mieux comprendre sur quoi nous ne sommes pas d'accord, connaître des personnes d'autres métiers, pouvoir réfléchir à des progrès ou des solutions.
Moi, en ce qui me concerne, ce serait connaître des personnes d'autres métiers.
Échanger sur les notions de préoccupation, dans ce qu'on a fait de toute façon.
Pouvoir réfléchir à des progrès ou des solutions.
On n'a pas fait ça.
Ça, ce sera en dernier. C'est ce qu'il faudrait faire, mais en même temps, les questions, on n'a pas assez de temps.
Éclaircir notre réflexion.
Oui, alors moi clairement, parce que du coup c'est hyper nourrissant là de, enfin voyez moi, je suis beaucoup à l'endroit de justement comment on construit les projets EAC, que l'articulation sur un territoire, et là de vous entendre aussi enseignant, porteur de projet et sur un territoire urbain, alors que moi je suis sur un territoire rural aussi, moi ça me déplace par rapport à ma façon de voir les choses, donc là c'est hyper intéressant pour ma construction de la suite.
C'est bête, mais moi je mettrais bien échanger sur nos sujets de préoccupation en 1.
Mais mieux comprendre sur quoi nous ne sommes pas d'accord, on a pondéré. C'est-à-dire qu'à un moment, Nina et moi, on était très radicales sur un sujet et que vos expériences ont permis de faire bouger le curseur quand même. Donc, c'était pas qu'on était en désaccord, mais ça a pondéré nos certitudes.
Non, mais parce que je trouve qu'on s'alimente bien finalement ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on s'écoute les unes les autres et donc on part d'une pseudo-certitude, d'une position assez campée. Et en s'écoutant, on déplace le curseur. C'est pour ça que je souris. Je trouve ça bien. Parce que du coup, on n'est pas dans un rapport frontal, mais on avance ensemble dans notre réflexion. Voilà.
On peut mettre connaître des personnes de notre métier en 4 et puis laisser pouvoir réfléchir à des progrès ou des solutions, parce qu'on n'est peut-être pas allé jusque-là.
Oui, comme là, dis, c'est vrai.
Ok, c'est bon.
Bravo.
Envoyé.
Merci Nina.
Vous venez d'écouter Cas d'école, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dans un hors-série consacré aux rencontres de l'éducation artistique et culturelle de la Courneuve. Vous pouvez trouver toutes les références sur le site ife.ens-lyon.fr/cas d'école. À bientôt !